Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Les noms de certains pharaons nous sont très familiers, que ce soit Ramsès, Khéops, Khéphren ou encore Toutankhamon, qui ne régna guère mais qui doit son entrée en fanfare dans la postérité à la miraculeuse découverte de son tombeau intact en 1922. Côté femmes, les noms qui nous viennent sont bien sûr Hatshepsut et Cléopâtre. Mais le pharaon auquel nous nous intéressons dans ce nouvel épisode en deux parties fait figure de comète dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Ce grand mystique qui allait bouleverser l'Égypte le temps de son règne se nommait Amenhotep IV, Amenophis IV en grec ancien. Il serait à l'origine de la première forme de monothéisme de l'Antiquité. Le nom sous lequel il est entré dans l'histoire, il le choisit lui-même, Akhenaton. Seconde partie, détruire Amon. La fureur iconoclaste a sévi peu de temps. On s'accorde à penser que 3 mois ont suffi à des équipes d'ouvriers bien organisées pour effacer le nom d'Amon des temples de Thèbes. Cette entreprise de destruction aurait laissé une image bien négative d'Akhenaton si elle ne s'était accompagnée d'un changement radical dans les codes artistiques. Changement qui allait ébranler en profondeur une institution conçue pour demeurer immuable. Jusque-là, la statuaire et les bas-reliefs suivaient en effet un code stylistique qui était à l'image de l'impressionnant conservatisme religieux de la civilisation égyptienne. En 2000 ans, quasiment rien n'a changé dans la manière de représenter les corps et les visages. Nous avons tous à l'esprit, jusqu'à la caricature, ces postures qui montrent la partie basse du corps et la tête de profil et le torse de face. Durant des siècles, quelle que soit la physionomie des pharaons qui se succèdent par centaines, ils ont invariablement ces larges épaules, cette taille étroite qui forme un torse en V, des jambes dont la longueur est mesurée pour équilibrer harmonieusement l'ensemble du corps et cette musculature à la fois puissante et délicate. Les visages, quant à eux, vont subir quelques modifications à mesure que passent les siècles, mais si peu, toujours ces regards fixes, rendus hypnotiques par le maquillage, ces sourires que ni les années ni les épreuves ne paraissent altérer. Eh bien, le règne d'Akhenaton va venir renverser cet ordre qui semblait éternel. Les épaules deviennent étroites. Le ventre apparaît proéminent, légèrement tombant. Les hanches s'élargissent, les bras s'allongent et deviennent grêles. Le vêtement n'est plus ce pagne qui couvre d'un triangle austère le milieu du corps. Il moule les formes, colle à la chair. Il ne cache plus la nudité, il l'épouse. La tête de Pharaon subit elle aussi un traitement qui encore aujourd'hui pose question. Le visage est très allongé, les yeux en amande, inscrits avec réalisme dans les orbites. 2 rides très prononcées relient la base des narines à la commissure des lèvres, elles-mêmes généreusement charnues. Sur les bas-reliefs, on se met à représenter des scènes de l'intimité familiale. Akhenaton et Néfertiti apparaissent dans des attitudes du banal quotidien, donnant aux compositions un naturel saisissant. Les poses s'assouplissent, les scènes se diversifient, le disque solaire lui-même est représenté dans la plénitude de son action créatrice. Sur toutes les scènes, ses rayons creusent ostensiblement leurs sillons dans la pierre et s'achèvent par des mains stylisées qui viennent presque toucher les sujets qu'elles éclairent. Le souci de représenter la création dans sa réalité la plus palpable n'explique cependant pas certaines outrances dans la représentation de Pharaon. Comment admettre en effet que l'effort pour représenter celui qui était une figure de Dieu sur terre puisse aller jusqu'à la caricature ? De nombreux médecins se sont penchés sur la physionomie singulière et unique d'Akhénaton. Les diagnostics les plus extravagants ont été émis pour expliquer tel allongement du crâne, telle malformation des jambes, telle configuration des yeux. On a avancé un certain syndrome de Froelich, rapidement écarté, car il n'est pas compatible avec la fertilité avérée du pharaon. Akhenaton a en effet donné 6 filles à Néfertiti, et sans doute un fils. Puis on a parlé du syndrome de Baraké et Simon, qui a pour symptôme de faire grossir les hanches. Mais cette affection, si elle était avérée, permettrait de faire taire ceux qui ont émis l'idée qu'Akhenaton était une femme, ou mieux que Néfertiti était un homme. Parmi les hypothèses retenues, il y a celle d'un syndrome de Marfan, qui aurait entre autres effets celui de donner aux mains un allongement des doigts démesuré. Et en effet, à bien regarder les bas-reliefs très détaillés représentant Akhenaton, on est saisi par la dimension hors norme de ses phalanges. Hélas, les maladies qui donnent du ventre ne sont pas celles qui font gonfler les hanches, celles qui déforment le visage sont incompatibles avec la fertilité. Quant à celles qui atrophient les jarrets, elles ne font pas maigrir les bras. Et à moins d'attribuer à Akhenaton toutes les tares, on n'est pas encore parvenu à donner une explication médicale convaincante à son étrange configuration. Les égyptologues sérieux que ces querelles de médecins amusent, plus qu'elles ne fatiguent, ont fait observer que la morphologie d'Akhenaton se trouve déjà esquissée, du moins pour ses aspects les plus spectaculaires, dans les représentations de l'époque qui le précède. Dès son père Amenhotep III, on voit clairement s'épaissir les hanches de Pharaon dans les représentations peintes. Parties basses et parties hautes du corps abandonnent leurs proportions d'antan. Les crânes s'allongent sur certaines têtes sculptées de princesses. Loin de désigner une malformation congénitale ou une quelconque maladie, on penche plutôt pour une déformation de la boîte crânienne par bandage, de la naissance de l'enfant jusqu'à son adolescence, tel que cela se pratique alors un peu partout, en Afrique et en Asie. Se peut-il que Néfertiti ait été originaire d'un pays où l'on pratiquait ce genre de bandage, par exemple la Nubie ? Sa tête momifiée ne porte-t-elle pas une perruque typiquement nubienne ? Et la tête momifiée que l'on pense être celle d'Akhenaton ne porte-t-elle pas, elle aussi, des traces de bandage ? Alors que dire ? Akhenaton, pharaon malade, bandé à la nubienne ou pharaon excentrique ? La volonté affirmée du monarque de coller au réel a dû incontestablement se traduire chez les artistes de la cour par un culte du réalisme jusqu'à la caricature. Étonnamment, quelques années après ces premières représentations qui ont marqué notre imagination, Akhenaton apparaît dans la statuaire sous une forme absolument normale. Visage équilibré, dépourvu de défauts outranciers. En revanche, une statuette de Néfertiti âgée nous montre la reine dans une attitude qui trahit la vieillesse. Les épaules voûtées, les seins légèrement tombants, les joues quelque peu affaissées, elle n'est plus montrée dans cette resplendissante beauté de sa jeunesse. S'il est une clé pour comprendre cette étonnante parenthèse dans l'histoire de l'Égypte, elle réside dans cette lumière qui descend d'Aton. En touchant Pharaon de ses mains pleines de grâce et de tendresse, elle lui a révélé l'intime et parfois brutale réalité des êtres et des choses. Quel qu'aient pu être les tares ou les obsessions d'Akhenaton, il reste que les bas-reliefs qui le représentent en famille montrent un monarque doux, tendre, attentif à ses proches. Sur l'un d'eux, assis en face de Néfertiti, il converse avec son épouse. La composition montre, outre le couple royal, 3 de leurs filles. L'une d'elles est assise sur les genoux de sa mère et montre son père du doigt. Une autre, et juchée sur son épaule, tandis qu'Akhenaton, tenant la troisième dans ses bras, lui donne un baiser sur le front. C'est une touchante scène familiale, banale, ordinaire, humaine. En haut, au centre de l'objet, le dieu soleil, Aton, déploie ses rayons en faisceau sur ses élus. Un autre bas-relief montre le couple royal en promenade dans un jardin. Néfertiti accueillit des fleurs, les pieds bien ancrés sur le sol, vêtue d'une robe translucide qui laisse apparaître quelques rondeurs. Elle présente les bouquets à son époux. Akhenaton se tient debout, appuyé sur un bâton dans l'attitude d'un marcheur qui prend un moment de repos. Ses vêtements, comme soulevés par le vent divin, paraissent flotter entre ciel et terre. Un coup d'œil sur toutes les œuvres qui nous sont parvenues de ce règne nous montrerait des représentations de tous les moments de la vie, les heureux comme les malheureux, le tout souvent agrémenté de plantes, de fleurs et d'oiseaux, motifs typiques de cette époque. Les actions entreprises par Akhenaton durant son règne pourraient laisser entendre qu'il a été un dictateur intransigeant, voire tyrannique. Il est vrai qu'un conflit ouvert l'a opposé au clergé, mais il ne semble pas avoir eu de conséquences sur la population et l'on n'a pas établi qu'il ait châtié quiconque s'opposait frontalement à ses décisions. Après une visite à Thèbes, la quatrième année de son règne, il s'était juste plaint de l'accueil qui lui avait été fait. On récriminait dans son dos. Comment pouvait-il en être autrement ? Imaginons-nous un seul instant un président de la République nouvellement élu qui supprimerait d'un coup les principaux articles de la Constitution, ou un pape décidant de remplacer Jésus-Christ par Bouddha. Il n'est pas étonnant que le clergé d'Amon se soit scandalisé.
Quant à ce que j'ai entendu quand je suis venu à Akhetaton, c'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 4 de mon règne. C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 3. C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 2. C'est pire que ce que j'ai entendu en l'an 1.
Le ton n'est pas celui d'un monarque qui s'apprête à punir ses sujets, mais plutôt celui d'un homme accablé qui se lamente sur les médisances dont il est l'objet. À la mort d'Akhenaton, son fils Toutankhaton changea de nom, devenant Toutankhamon. Il réinstitua Memphis, capitale de l'Empire. Les textes trouvés auprès de son sarcophage montrent jusqu'où alla le ressentiment du clergé à la disparition de son père. L'hérésie de ce dernier y est clairement dénoncée et ses actions sacrilèges stigmatisées.
Or, lorsque Sa Majesté Toutankhamon apparut en qualité de roi, les temples des dieux et des déesses, depuis Éléphantine jusqu'au marais du Delta, étaient abandonnés et tombaient dans l'oubli. Leurs sanctuaires abandonnés étaient devenus des éboulis où poussaient les mauvaises herbes. Leur demeure était comme si elle n'avait jamais existé. Leur lieu de séjour était comme un chemin pour les piétons. Le pays traversait une épreuve. Quant aux dieux, ils se détournaient de ce pays. Si l'on envoyait des troupes pour élargir les frontières de l'Égypte, elles restaient impuissantes. Si on suppliait un dieu pour obtenir quelque chose de son ressort, il ne venait pas du tout. Si on implorait une déesse pareillement, la déesse ne venait pas du tout non plus.
La litanie est interminable, faite de plaintes destinées à montrer les effets funestes de ces réformes sur la terre d'Égypte. Vous vous rendez compte, si on implorait une déesse pareillement, elle ne venait pas du tout non plus. C'est bien la preuve que le culte d'Aton était une hérésie. Le début de la 19e dynastie est l'occasion d'une entreprise de destruction systématique de tout ce qui évoquait le règne d'Akhenaton. On ne tarde pas à effacer les traces et le souvenir de son passage. Sa tombe est même pillée sur ordre des autorités. Chez un peuple pour qui la sépulture est le saint des saints, il ne pouvait y avoir pire châtiment. Il reste qu'Akhenaton a existé. Il a existé sans doute pour nous montrer que même dans les veines d'un dieu, peut couler ce que Shakespeare appelait le lait des tendresses humaines. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. Je suis Clémentine Portier-Kaltenbach et l'épisode que vous venez d'entendre a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatter. La bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Et attendez un instant, j'ai une suggestion pour vous. Si vos enfants, neveux, petits-enfants sont aussi férus d'histoire que vous, nul doute qu'ils apprécieront un nouveau podcast d'Europe 1 Studio, Les Voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. On y suit les aventures d'Amélia, une petite fille de 10 ans, et de Granny, une vieille antiquaire fantasque. Ensemble, elles voyagent dans le temps et rencontrent des personnages historiques comme Louis XIV, Joséphine Baker ou, justement, Akhenaton. Les premiers épisodes sont à découvrir sur europe1.fr, l'application Europe 1, et à écouter en exclusivité sur la plateforme de notre partenaire Deezer. Je suis certaine que toute la famille va adorer.